Bonjour, merci de nous être fidèles tous les week-ends au sommaire du grand face-à-face jusqu'à 13h la semaine des humoristes d'Inter, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis le débat du samedi, la démocratie a-t-elle encore le temps? En un an seulement, la situation s'est complètement retournée pour le président de la République. Impopularité des événements qui s'enchaînent et qui lui échappent. Emmanuel Macron qui essayait de reprendre la main cette semaine, de redevenir le maître des horloges, mais l'horloge démocratique est peut-être déréglée. On en débattra avec le député MoDem Jean-Louis Bourlange dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et avec moi en studio, Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Est-ce que vous étiez sur les Champs-Élysées jeudi soir pour acheter l'album de Johnny dès minuit?
Je dois avouer que je suis un mauvais citoyen, je n'étais pas sur les Champs-Élysées.
Et vous, Natacha ?
Je dois avouer qu'à minuit, je dors, heureuse. Dans
votre pays, ce n'est pas l'amour apparemment, mais avant de revenir avec vous deux sur l'actualité, la semaine vue par les humoristes de France Inter est mise en onde par François Audouin. Et cette semaine, un remaniement gouvernemental qui était très attendu, flash spécial de Daniel Morin pour l'arrivée de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur.
France Inter Flash spécial, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'apprête à prendre la parole devant la presse pour donner les grands axes de son action à venir. On part directement au ministère de l'Intérieur. Place Beauvau.
Chers amis journalistes, je suis content que vous soyez venus aussi nombreux. On va mettre les choses au point tout de suite. Pour commencer, fini les enquêtes pour blanchiment d'argent, fini les enquêtes pour proxénétisme. Fini les fermetures de centres de jeux clandestins. Malheureusement, on n'a plus le temps pour tout ça. Des questions?
Qui sont les deux messieurs en costume rayé derrière vous, monsieur le ministre?
Ah, eux, c'est Jojo la mitraille et Loulou la gâchette. C'est mes secrétaires d'État.
Je vais prendre une photo?
Non, pas de photo. Jamais de photo. Autre question?
À propos de vos anciennes relations, monsieur le ministre, je voulais...
Plus de questions? Parfait.
Mais le jour même, vous le savez, le parti La France Insoumise et le domicile de Jean-Luc Mélenchon étaient perquisitionnés. Charline Vanhoenacker a suivi la folle journée du chef des Insoumis.
Des Facebook Live, j'en ai déjà vu beaucoup. Des gens qui font de la musique, parfois ils font de la cuisine ou des sketchs. Mais alors le Facebook Live de perquisition, j'avais l'impression d'être devant un épisode des Experts Miami, mais avec Derrick au premier plan. Ensuite, je me branche sur Le Média, la chaîne Insoumise, où on m'explique que Mélenchon est victime d'un assassinat politique commandité par l'Élysée. Je décide alors de passer sur LCI, où un éditorialiste raconte que l'objectif des Insoumis est clairement d'éclipser l'immense succès du remaniement gouvernemental. Alors je repasse sur Le Média qui diffuse un documentaire. Il s'agit d'une rétrospective de toutes les perquisitions qui ont été menées par les grandes dictatures à travers l'histoire. Alors je zappe sur LCI où je vois Éric Coquerel et Adrien Quatennens le poing levé en train de crier « Résistance, résistance !» dans la rue. Je me dis « Mon Dieu, ça y est, ils ont été faits prisonniers politiques !» Sur Twitter, Valeurs Actuelles dévoile sa prochaine une. Les Insoumis, c'est caïds de la mafia qui méprise la justice. Le soir, il y a Hanouna qui anime un débat « Les perquisitions Rasra ou Darka ?» Puis j'ai lâché le dossier au moment sur la chaîne parlementaire, j'ai vu Marine Le Pen applaudir Mélenchon à l'Assemblée. Et là, j'ai plus rien compris.
Et une perquisition qui a fait polémique, notamment à cause de la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez Tanguy Pastureau.
Mélenchon et ses potes déboulent. Il y a Corbière, Quatennens, que des oufs qui ont la rage. Quand le free fight sera légalisé chez nous, ils feront tous les combats. Puis ils crient « Allez, on défonce la porte !» C'est-à-dire qu'ils entrent en effraction dans leur propre local. Donc ils poussent sur la porte. Mélenchon dit « Ça y est, ça craque !» Lorsque, véridique, un mec leur dit « Non mais en fait, c'est ouvert de l'autre côté !» Il y avait une autre porte. Ils n'ont pas vérifié. C'est peut-être des députés, mais c'est pas des flèches. Enfin, Mélenchon a dit « Certains s'intéressaient au contenu de mes tiroirs et à la lingerie qui s'y trouvait. La lingerie. Maintenant, dans ma tête, j'ai la vision de Mélenchon en petite culotte. Dans ma tête, il bouge son boule en me disant qu'il m'aime. Puis d'un coup, il m'éclate contre le mur en hurlant « Moi, je peux, mais toi, tu me touches pas. Je suis sacré, je suis la République, je suis l'univers, je suis une entité cosmique !»
Et comme chaque semaine, Guillaume Meurice a bien sûr mené l'enquête pour savoir ce que pensaient les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Moi, j'ai vu un extrait vidéo où il parle assez calmement, en fait, de ce qui est en train de se passer. Voilà. Bon, il n'est pas content, mais il n'a pas l'air, il n'est pas l'air super énervé, en fait, sur ce coup-là.
Il y a quand même quelques vidéos où il est un peu énervé.
C'est juste que je trouve que peut-être il est maladroit, dans ma com.
Oui, là, c'était un coup de com un peu raté. Encore que ça dépend, s'il veut être, président de la Fédération française de Free Fight. Comment il l'a trouvé, cet autre électeur?
Égal à lui-même. Ouais. Voilà, c'est sa façon d'être, sa façon de. Je veux dire, moi, je comprends en même temps qu'il soit très énervé.
Mais est-ce que ça renvoie une bonne image de lui et de son mouvement?
C'est un décapant.
Ouais, c'est un décapant. C'est un décapant, ça y a aucun doute. Si chez vous, vous avez une vieille table, par exemple, à décaper, vous appelez Mélenchon et vous lui dites: cette table, elle veut te perquisitionner.
Et la colère du leader de la France insoumise qui a choqué jusqu'au standard de France Inter, Frédéric Becbédé, s'est donc occupé de l'accueil des auditeurs.
Oui, bonjour. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous ne parliez ni de Macron, ni de Mélenchon.
Ma foi, ça semble faisable. Que proposez-vous comme chronique ce matin?
Eh bien, il me faudrait un spa auditif, Frédéric, par pitié.
Et c'est parti, musique. Bienvenue au spa auditif, Frédéric Becbédé. À présent, vous contemplez un coteau verdoyant couvert de potiocs qui broutent et qui font Macron, Mélenchon, comme ils sont loin, ils sont tout petits à l'horizon comme des petits potiocs.
C'est pas mal l'idée d'un spa auditif.
Oui, avec des potiocs. Ce sont des petits chevaux basques sauvages qui sont dans les montagnes du Pays Basque. Et oui.
Bravo, mais vous savez tout.
Ouais, c'était bon.
Merci pour les sous-titres.
Le Pays Basque, je maîtrise.
Et on va parler d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Le grand face-à-face continue avec le duel.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Et on va évidemment démarrer par la colère et le coup d'éclat de Jean-Luc Mélenchon. C'était mardi. D'abord, la colère froide.
Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, voilà, c'est moi Mélenchon avec une écharpe tricolore.
Avant la colère chaude.
Descendez de cette table! Descendez de cette table! Arrêtez de salir mon matériel!
Est-ce que vous avez compris cette colère, Natacha?
Il y a une différence entre constater la colère, analyser les causes de la colère et ensuite approuver ou non cette colère. Je pense que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon pose un problème énorme dans la mesure d'abord où il est en train à ce moment-là de réclamer l'équité, mais on sait très bien que n'importe quel citoyen qui se comporterait de cette façon-là se retrouverait au newf.
C'est probable. Tout.
Donc je pense que le fait de perdre son sang-froid à ce point, d'agresser des fonctionnaires de cette manière-là, ne peut pas être acceptable de la part d'un élu de la République. Après, on parle du fond.
On va en parler justement du fond, oui. Raphaël.
Il y a deux Jean-Luc Mélenchon. Il y a le Jean-Luc Mélenchon qui est capable de faire de grands discours d'éducation populaire, qui est aussi capable de convertir son logiciel, de passer à un logiciel écologique et de l'expliquer avec culture, avec force. Il y a le Jean-Luc Mélenchon qui est capable de produire l'avenir en commun avec l'aide de son mouvement, de structurer un mouvement. Et il y a ce Jean-Luc Mélenchon qui n'a jamais disparu mais qui a refait surface par moments, qui est un Jean-Luc Mélenchon violent et absolument autoritaire. Et donc là, on avait le Jean-Luc Mélenchon qui se prend lui-même, qui s'auto-sacralise et qui se prend lui-même pour quelqu'un qui, par son charisme, échappe au commun des mortels. Et c'est ça le danger de Jean-Luc Mélenchon. Parce
qu'il dénonce un procès politique, il dénonce une enquête manipulée par le pouvoir. C'est peut-être la raison pour laquelle
Regardez, alors maintenant parlons du fond. Le problème, c'est pas la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la perquisition chez la France Insoumise. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu la même perquisition sur Benalla, qu'on est revenu le lendemain. Ça, c'est un problème. Et effectivement, il y a deux vitesses. Mais le fait que des partis politiques doivent respecter les lois et doivent se soumettre à la justice, c'est au contraire quelque chose que Jean-Luc Mélenchon, qui a signé la charte anticor, a réclamé, lui, pendant toute sa carrière politique. Donc se soustraire à ce qu'on réclame soi-même parce que cela nous touche, cela veut dire qu'en fait on fait fi de son propre programme politique.
Est-ce que vous avez l'impression malgré tout qu'il s'est laissé aller, ou en tout cas que sa colère lui a échappé, qu'il était véritablement au sens strict hors de lui, ou est-ce qu'au contraire c'était pas une manière, avec l'utilisation de Facebook Live pendant la perquisition à son domicile, de prendre la main sur la com, pour le dire rapidement, plutôt que de subir de toute façon une information négative, celle de perquisition à son domicile et au siège de la France Insoumise?
Je pense que les deux sont vrais. bien entendu qu'il y a une volonté de sa part de communiquer et de construire cette idée d'un procès politique. Mais il y a aussi ce moment où tout lui échappe parce qu'en effet, et là je rejoins Raphaël, il y a le caractère de l'homme, il y a ce qu'il est, il y a sa psychologie, il y a sa façon de se concevoir et de concevoir le pouvoir. D'ailleurs, même ça va au-delà, je pense que là on est vraiment dans la personnalité profonde. Simplement, je pense que sur le problème n'est pas tant de savoir si il est hors de lui, si c'est scandaleux ou pas, il y a en effet une question qui est à poser, qui est celle des rapports entre la justice et le politique. La justice doit s'imposer à tous. Jean-Luc Mélenchon l'a suffisamment dit, et quand les autres partis étaient touchés par des perquisitions, il a suffisamment expliqué à quel point il trouvait scandaleux que des gens comme Marine Le Pen, François Fillon ne se plient pas à ces règles-là. Simplement, là où je rejoins aussi Raphaël, c'est que visiblement, la justice n'a pas la même rapidité dans toutes les affaires et pour tout le monde, et quand on touche toutes les sortes d'intérêts. Curieusement, les petits partis politiques se voient frappés assez rapidement et avec quand même 100 fonctionnaires de police pour des perquisitions, ça semble énorme. Vous voyez, il y a quand même, on sent 75. Un caractère d'urgence. Ça ne signifie certainement pas que ce soit le pouvoir politique, que ce soit Emmanuel Macron qui ait instrumentalisé ça. Le problème est autre.
Est-ce que cette séquence risque d'être fatale à Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce que vous pensez au contraire que ça peut lui servir? Ça peut lui servir pour mobiliser ses troupes et justement faire passer toute cette investigation autour, cette enquête autour du financement de sa campagne au second plan?
Bah déjà, il y a des nouvelles accusations qui sortent ce week-end, mais
grâce à la cellule d'investigation de Radio France.
Donc ça va pas faire passer le fond, à mon avis, au second plan, en tout cas pas longtemps. Mais par ailleurs, sur l'impact politique de cette colère qui est feinte et ensuite perdue, eh bien il y a une contradiction en fait dans la France insoumise, dans la stratégie même de Jean-Luc Mélenchon. Si il veut incarner simplement la colère dite populiste, alors on pourrait croire que ça lui sert. Mais en réalité, il y a plus que ça dans la France insoumise. Il y a aussi la volonté de s'adresser aux électeurs de gauche traditionnels et convertir en fait à sa propre stratégie l'ensemble de l'espace politique de gauche. Or, les électeurs de gauche qui sont extrêmement attachés à l'indépendance de la justice, qui sont extrêmement attachés au programme même de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions, eh bien, ils vont être rebutés.
Vous êtes
par
sûr
une telle
de ça
attitude.
Parce que pendant la campagne présidentielle, parce que là, il avait déjà dit qu'il était le bruit et la fureur.
Oui, il avait dit qu'il était
chose, le bruit et la
fureur. Le bruit et la fureur, et qu'il fallait que les citoyens, désormais, soient tous égaux, et que il faut démonarchiser la République, faire une 6e République. Il y a beaucoup de gens qui sont venus sur ce logiciel, et tout d'un coup, ils entendent « Moi, la République, c'est moi ». C'est la phrase la plus jupitérienne possible, et ils se retrouvent, en fait, face à quelqu'un qui se voit aussi haut qu'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les deux sont dans une compétition monarchiste, une compétition de l'incarnation charismatique, et finalement, les électeurs de la 6e République, ceux qui sont venus pour la 6e République, ils vont avoir du mal quand même à gérer cette contradiction-là.
Pourquoi est-ce que c'est différent, le bruit et la fureur?
Parce que je suis le bruit et la fureur dans le cadre d'une campagne politique. C'est une façon de dire, je porte... C'est le hasard de l'incarnation momentanée des mouvements politiques. Je porte à ce moment-là un mouvement qui va renverser l'ordre établi. Je pense que politiquement, cela peut s'entendre. Là, c'est tout autre chose. Et là, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, cette attitude, cette colère, qui est une colère de démesure totalement, non maîtrisée, en effet, il est hors de lui, va contribuer à radicaliser ses propres troupes, comme se radicalisent toutes les troupes de tous les partis
donc
politiques.
Donc c'est de la bonne stratégie politique.
Non.
Mobiliser ses troupes.
Justement non. Justement non, parce que c'est une façon de galvaniser des gens autour du culte, du discours de son propre parti. C'est un esprit partisan qui ne rassemble pas et qui ne parle pas à l'ensemble du peuple comme communauté politique. C'est un discours qui est censé galvaniser les uns contre les autres. Or, je pense qu'un homme d'État, dans l'état actuel du pays, c'est-à-dire à un moment où justement ce genre de fracture se creuse, à un moment où les haines montent, doit au contraire s'élever au-dessus de la haine, de l'esprit partisan, de la colère. Là, je ne dis pas qu'il y a de la haine chez les insoumis, comme il n'y en a pas chez les autres membres de partis politiques, ou chez les... mais nous sentons monter dans... En France, cette incapacité à entendre la contradiction, à débattre, à accepter que parfois son propre parti ou son propre camp commet des erreurs, je pense que tout cela est très dangereux.
Raphaël ?
Non, il y a un véritable problème. On voit bien que le pouvoir macronien se délite, en tout cas qu'il laisse un espace de contestation immense, de plus en plus grand. Et l'opposition multiple n'arrive pas à s'affirmer. Et là, je pense que ce qui s'est passé ne permettra pas à la France insoumise d'incarner cette opposition et cette contestation du pouvoir macronien et de représenter une alternance crédible. Donc il y a un vrai problème politique sur la scène politique française. Là, c'est quand même assez évident. Et on comprend aussi pourquoi Emmanuel Macron lui-même aime bien le fait d'avoir Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen comme principaux opposants, parce qu'il sait qu'à tout moment, c'est des grenades découpillées qui peuvent exploser.
Cela dit, à la décharge de Jean-Luc Mélenchon, quand on vit depuis un an et demi l'espèce de mépris institutionnel de la part des par exemple des députés La République En Marche, c'est-à-dire cette façon de ne jamais prendre en compte un amendement de l'opposition, de ne jamais être présent même lors des discours de l'opposition, je pense qu'il y a de quoi devenir dingue et être très en colère. Et je n'excuse pas cette colère. Je dis simplement que les institutions démocratiques ne permettent plus aujourd'hui, et c'est un véritable problème, de tout simplement construire du dialogue et du débat démocratique.
Non, il n'y a pas de quoi devenir dingue. Au contraire, c'est une responsabilité immense. On voit effectivement une arrogance.
Non, mais je viens de dire en effet que ça n'excusait pas.
On voit une arrogance.
C'est une explication, pas une excuse.
On voit une arrogance, et quant à l'explication, j'en doute fortement. Je veux dire, c'est pas non plus extrêmement nouveau chez Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui inquiète beaucoup de gens qui pourraient par ailleurs partager le programme L'Avenir en Commun depuis l'origine. Il y a un rapport de Jean-Luc Mélenchon, mais ça c'est un secret de Polichinelle, même les insoumis le disent. Il y a un rapport de Jean-Luc Mélenchon à la violence, un rapport à l'autorité, un rapport à sa propre personne qui rebute beaucoup de gens qui par ailleurs peuvent partager les idées.
Oui, sortons un peu de sa simple personne et essayons de voir le fonctionnement actuel des institutions et cette radicalisation dont je parle et qui ne touche pas que Jean-Luc Mélenchon.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Dans l'actualité aussi, l'Arabie Saoudite, après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul, on a vu de nombreuses réactions sur la scène internationale, des annulations en série à ce qu'on appelle le Davos du désert, ce sommet qui doit se tenir en Arabie Saoudite. Quel regard portez-vous sur cet assassinat et ce qu'il révèle du pouvoir saoudien, Natacha ?
Je pense que c'est une affaire majeure et une affaire dont nous devrions tous nous inquiéter. Mohamed Ben Salman, il y a encore un an et demi, a été célébré par tous les médias occidentaux comme celui qui faisait bouger l'Arabie Saoudite. C'était formidable. Pensez donc que les femmes pouvaient enfin conduire. Quel progressisme !
Bon, et accéder c'était au marché du travail.
Le prince moderne. Sauf qu'en fait, derrière, ce qu'on ne voulait pas voir, c'était cette alliance très très ennuyante, très embêtante d'un point de vue géopolitique entre l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis, une alliance qui est fondée uniquement sur la détestation d'un ennemi commun, l'Iran, et sur le fait que l'Arabie Saoudite utilise sa puissance financière pour essayer de s'imposer comme seule puissance régionale, quitte à écraser le Yémen dans le silence absolu de la communauté internationale. Or là, ce qui se passe, c'est l'exaction de trop. C'est-à-dire que tout à coup, on s'aperçoit, que Monsieur Ben Salman n'est pas un gentleman. D'accord, simplement, les affaires vont reprendre. Là, le Davos du désert, momentanément, est stoppé. Mais derrière, pardon, on voit déjà les discours...
Mais il aurait fallu rompre
partout.
Les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite ?
Non, il faut surtout essayer, en France et en Europe, de peser, c'est-à-dire de ne pas être suiviste vis-à-vis de cette alliance. Or, hélas, Emmanuel Macron avait bien commencé avec l'affaire Hariri quand il a essayé d'apaiser les relations avec le Liban. Il a très mal continué en suivant Donald Trump sur le bombardement en Syrie, ce qui fait qu'il s'est rangé derrière cette alliance problématique.
Alors, on est d'accord sur l'analyse sur l'Arabie Saoudite, mais la fin de votre parole...
Je me doutais un petit peu.
Emmanuel Macron n'a pas suivi les États-Unis sur le bombardement de la Syrie. Ça fait des années que la France réclame des sanctions beaucoup plus fortes contre Bachar el-Assad et que les États-Unis reculaient. Donc, c'est pas... Moi, je suis d'accord pour critiquer Emmanuel Macron toutes les semaines, mais en l'occurrence, il n'a pas suivi. C'était pas une politique suivie, c'était la politique de la France depuis longtemps. Donc, ça, c'est
sur
la Syrie.
C'était celle qu'il promettait au début de son quinquennat.
C'était la politique de la France depuis longtemps.
Et
déjà en campagne
électorale
sur France 2, il avait dit exactement la même chose, c'est-à-dire
au début de son quinquennat, il avait changé.
Mais revenons.
Maintenant, j'en ai parlé parce que là, j'ai réagissé à la fin de la proposition. Je suis d'accord avec le début de votre intervention. C'est pire encore que ne pas être un gentleman. C'est quand même céder à l'hubris là, alors de manière complètement délirante. C'est extrêmement rare. Il faut le souligner quand même. C'est extrêmement rare ce qui s'est passé. Même les tyrannies les plus affermies et les plus rebutantes ne découpent pas quelqu'un en morceaux dans un consulat sur une terre étrangère en utilisant un lieu diplomatique pour se livrer à un acte de barbarie. Donc il y a là quelque chose qui relève de l'hubris et effectivement une hubris qui est suscitée par quoi ? Par le sentiment que de toute façon l'alliance avec l'Arabie Saoudite est tellement au-dessus de tout autre considération, qu'en fait on peut tout se permettre. Et donc la conséquence, c'est évidemment qu'il faut réviser les relations avec l'Arabie Saoudite et mettre une pression sur ce prince héritier et sur Riyad. Je veux dire, c'est l'évidence absolue. Donc non seulement il faut annuler le sommet et la participation au sommet, mais il faut que ce soit plus durable et qu'il y ait des exigences extrêmement claires. Parce que le problème, c'est que quand on a une alliance avec un pays, l'enjeu, c'est de ne pas se laisser emporter par l'hubris du dirigeant qu'on est censé soutenir.
Le problème qui est derrière,
encore
c'est
un mot avant d'accueillir notre invité.
L'Europe a été incapable de résister, par exemple, à l'imposition de l'extraterritorialité du droit américain, qui fait que nos entreprises sont obligées de sortir d'Iran juste parce que Donald Trump, dans son alliance avec Israël et avec l'Arabie Saoudite, a décidé d'interdire à tout pays de commercer avec l'Iran. C'est-à-dire que nous ne nous donnons pas les moyens, et en particulier les moyens économiques, de résister à cet impérialisme.
Les moyens économiques et politiques et militaires. Et dans ce cas-là, il faut donc qu'il y ait une affirmation d'une puissance européenne. C'est une affirmation d'une puissance européenne qui soit réellement indépendante.
Oui, mais on avait les moyens de le faire sur l'extraterritorialité du droit, sur le cas iranien. On a refusé, on a renoncé. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a regretté.
L'Europe recule devant tout type de rapport de force parce qu'elle ne se sent elle-même pas forte. Et donc c'est ça, il faut construire une force européenne.
On va en rester là. Le grand face-à-face continue maintenant avec le débat.
Le grand face-à-face. Ali Badou. Sur France Inter.
La démocratie a-t-elle encore le temps ? Le président de la République peut-il encore être le maître des horloges ? Extrait de son allocution solennelle mardi dernier depuis le palais de l'Élysée.
Nous vivons, mes chers compatriotes, une situation inédite, une époque nouvelle. Et nous serons jugés à l'aune de notre lucidité et de notre courage. Nous devons regarder en face ce monde tel qu'il est.
C'était donc Emmanuel Macron qui parlait de l'histoire en train de se faire, du temps long, des mouvements tectoniques et du moment historique que nous vivons. Lui, le président élu pour un quinquennat et qui semble avoir pourtant perdu la maîtrise des événements au bout d'un an seulement, comme si l'horloge démocratique était détraquée. La personne de notre invité est sacrée. Il est député MoDem. Bonjour Jean-Louis Bourlange.
Je vous remercie.
Ça vous fait sourire.
Mais c'est sacramentel.
C'est ainsi, oui, que on doit parler aux députés de la nation. Vous avez entendu évidemment le président de la République s'exprimer mardi dernier. Comment expliquez-vous qu'en 18 mois seulement la situation se soit totalement retournée pour lui ? Comment expliquer qu'il ait perdu la maîtrise des événements et peut-il encore être le maître des horloges ?
Non, moi, je ne crois pas que la situation se soit totalement retournée. Je ne crois pas qu'il ait perdu la maîtrise des événements. Et je ne crois pas qu'il ait jamais été, à lui tout seul, le maître des horloges. Je pense que c'est... Moi, ce qui m'avait frappé quand je m'étais présenté, j'ai été élu, non pas en raison de ma bonne mine ou de mon caractère sacré de ma personne, comme vous l'évoquez, j'ai été élu parce que j'étais le candidat d'Emmanuel Macron. J'étais au MoDem, mais j'étais le candidat d'Emmanuel Macron. Les gens demandaient au président du bureau de vote...
De 2017.
Au président du bureau de vote, quel est le candidat de Macron? C'est M. Bourlange. Ah bon, moi, je vote pour lui. C'est, ça, il faut être modeste dans ces cas-là. Mais ce qui m'avait frappé pendant cette campagne, j'avais fait un meeting notamment avec Jean-Michel Blanquer, et j'avais dit, on est quand même dans une grande illusion. C'est-à-dire qu'on a l'illusion que le remplacement d'une génération par une autre, qui était nécessaire, parce que vraiment, la génération des baby-boomers à laquelle j'appartiens, on a vraiment abusé du pouvoir. On a fait des choses bien, pratiquement jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Après, on s'est mis en roue libre. C'était le symbole Chirac. On était là, c'est nous qu'on est les princes, comme dirait Madame Sangène, et on était tranquille. Donc il y avait une poussée générationnelle qui était très forte, mais qui s'est accompagnée d'une poussée d'illusion. Et on avait le sentiment qu'il suffisait d'appliquer trois remèdes du patronat sur la flexibilité du travail, etc., pour que tout reparte. Eh bien non. J'avais mis en garde d'ailleurs, mais ça n'a aucune importance parce que les gens n'étaient pas pour ce que je disais, mais pour le rôle que j'incarnais dans cette élection. J'avais dit ça sera très dur, ça sera beaucoup plus dur. Et ce que nous avons vécu depuis un an et demi, c'est le fait que l'histoire est tragique, l'histoire est rude, les problèmes de puissance se posent. Et moi, ça n'entame pas ma détermination parce que je crois que les valeurs dont Emmanuel Macron est porteur, et pas lui tout seul, car je crois que c'est un assez large consensus, enfin un assez large rassemblement au sein du pays, de gens qui sont d'accord avec la démocratie représentative, avec l'idée d'une économie ouverte et d'une Europe qui essaie de se réunir. Tout ça, c'est des valeurs qui sont assez sûres, mais je crois que tout ce monde-là, toutes ces valeurs-là, on découvre que c'est pas gagné et que le combat est devant nous. Et voilà, c'est l'histoire est tragique.
Mais, Raphaël.
Oui, vous avez raison, il y a un large consensus en France autour de la démocratie représentative, d'une société ouverte ou même de l'appartenance à l'Union européenne. Mais enfin, je vois pas comment on passe de ce consensus à la politique d'Emmanuel Macron. La politique d'Emmanuel Macron elle-même ne fait pas consensus, on le voit. Il n'y a pas qu'un problème de style et d'incarnation du pouvoir, il y a aussi un problème de fond. Le consensus autour de la démocratie représentative, le fait que les démocrates soient plus nombreux que les tyrans dans notre pays, c'est une évidence, mais ça n'entraîne pas nécessairement le fait de supprimer partiellement l'ISF, par exemple. Donc il y a comme ça une illusion, vous avez raison, mais l'illusion, c'est de croire qu'on est soit pour la démocratie et pour l'Europe, donc pour Emmanuel Macron, et on doit, dans ce cas-là, accepter les mesures injustes qu'il propose, soit contre.
Non, c'est pas une mesure injuste. Je veux bien tout ce qu'on veut sur l'ISF. On savait très bien, quand on a supprimé l'ISF, hein, qu'on serait pas du tout bien vu, que les gens étaient favorables à l'ISF. Simplement, on avait le niveau de fiscalisation des entreprises et des gens qui ont de l'argent le plus élevé de tout l'Occident. Ça posait un problème de compétitivité. C'est tout. On a pris cette mesure. On savait qu'elle serait impopulaire. On pouvait faire autrement. Hein, on pouvait faire d'autres choses. Moi, j'étais, par exemple, j'étais partisan qu'on supprime tout l'ISF et qu'on le fasse en 3 ans. Et qu'on aille en revanche très directement sur la suppression des charges, des suppressions des charges pesant sur les salariés. Bon, c'était du réglage. Je ne dis pas que tout a été bien fait, au contraire, je crois qu'on a on a eu une sous-estimation et je suis d'accord avec vous, des résistances. C'est très très compliqué. La France est un pays qui est difficile à réformer.
Et pour
difficile.
La réformer, il faut donner le sentiment de justice et d'équité. Or là, la perception qui s'est installée et de manière justifiée, c'est quand même que les réformes, justement, qui sont difficiles, comme vous voulez, eh bien, elles favorisent les plus riches et les plus favorisés. Mais donc, ceux qui, a priori, ont le moins besoin de la politique.
Pardon, Raphaël, mais je pense qu'il y a cette question-là, la question de la perception de ce qui est mené comme politique, mais il y a un problème qui est un problème de fond, qui est celui que finalement Jean-Louis Bourlange abordait en l'évitant tout à l'heure. C'est-à-dire que vous nous avez dit, Jean-Louis Bourlange a raison, que vous avez été porté par une vague, par une poussée générationnelle, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a donné l'illusion que les problèmes qui se faisaient jour, qui étaient des problèmes profonds de la démocratie allait se résoudre simplement en changeant de génération. Mais vous avez oublié sans doute que, par exemple, lorsque vous avez été élu au premier tour de l'élection qui vous a mené à l'Assemblée nationale, il y avait 57% d'abstention. Peut-on encore parler d'une démocratie quand on atteint ce stade-là, sachant que ce sont les plus pauvres qui ne votent pas, donc on est dans un régime quasiment censitaire. C'est une crise majeure de la démocratie représentative qu'Emmanuel Macron croit résoudre en disant, et c'est ce que soulignait Raphaël, il y a les progressistes et il y a de l'autre côté les populistes, non. Donc les non-démocrates.
Jean-Louis Bourlange.
Je crois deux choses. D'abord, effectivement, la poussée générationnelle, je l'ai signalé, je n'ai jamais pensé que c'était la seule cause et que c'était la révolution macronienne, entre guillemets, se résumait à cela. En réalité, il y avait aussi quelque chose de très important, c'est l'idée qu'il y ait une rupture, que les rapports entre la droite modérée et le centre droit d'un côté et la droite profonde étaient, la rupture était totale et qu'à gauche, c'était ça la signification de la rupture entre Macron et Hollande, l'attitude, l'extrême gauche derrière Jean-Luc Mélenchon par exemple et la gauche modérée, la rupture était profonde. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les sensibilités de droite et de gauche avait disparu, mais ce n'était plus devenu, ça avait cessé d'être plutôt le principe ordonnateur, répartiteur, le clivage dominant de la politique française. Et donc, et ça, on le voit partout. On le voit partout. Regardez ce qui se passe ici et là, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni par antithèse, on voit bien que le système bipartisan ne fonctionne pas, ne correspond pas à la réalité des clivages réels de la société française. Et donc, l'idée macronienne, c'était qu'il fallait rapprocher le centre-droit, le centre-gauche et le centre tout court, si je puis dire. Donc, c'était ça l'idée. Alors, en revanche, la question que pose Natacha Polony, je la trouve extrêmement pertinente. Simplement, je n'en fais pas. C'est-à-dire, le fait, est-ce qu'on est représentatif quand on a derrière soi une partie seulement de l'opinion. Ouais. Je crois que c'est un problème absolument central, mais il ne faut pas en faire un argument de politique partisane. Je crois que nous assistons à quelque chose de redoutable partout en Europe, qui est la fragmentation des communautés politiques. Je pense que ça, c'est un événement. Faisons la comparaison entre ce qui s'est passé en 2002 avec l'élection de Chirac au second tour. Au premier tour de l'élection de 2002, Le Pen et Chirac sont séparés par quelques points. On aurait pu imaginer, sans trop se forcer, que Le Pen arrive en tête devant Chirac, comme il était arrivé en tête devant Jospin. Ouais. Au second tour, 83% des Français, ou 82% des Français, se retrouvent derrière Chirac. Parce que, à ce moment-là, les Français croient au second choix. Ils sont pas d'accord avec Chirac, mais ils estiment que c'est quelque chose qu'ils ont ça en commun. Là, ce que nous voyons, c'est effectivement une montée de l'abstention, une montée du vote blanc, une montée une difficulté, par exemple, des électeurs mélenchonistes ou des dirigeants mélenchonistes à faire front contre le Front National, une difficulté de certains électeurs de Fillon à faire ça. Et donc, et cette fragmentation, elle n'est pas accidentelle. Je pense que dans toutes les sociétés actuelles, européennes, on assiste pour des raisons très profondes d'individualisme en particulier à une fragmentation totale. Et ça, c'est un défi politique qu'on doit relever et ça n'est pas facile à relever.
Bien sûr, c'est pas facile à relever et c'est extrêmement profond et c'est lié
pour ça que nous sommes pour la proportionnelle.
À l'éclatement du lien républicain et à l'individualisme. Vous avez raison, mais alors le problème, c'est justement que tout le logiciel d'Emmanuel Macron s'adresse à cet individualisme et épouse cet individualisme. Donc ça correspond. Si, regardez, dès son premier discours le soir de la victoire, je vous vois chacun d'entre vous, je ne peux pas tous vous voir, mais je sais que des destins individuels vous ont conduit ici, il s'adresse aux individus. Oui. C'est le cœur même de sa logique. Oui, mais c'est le cœur même.
De Gaulle aussi, De Gaulle avait le sens du collectif.
C'est le cœur même de sa logique. Quant à l'effacement du clivage droite-gauche dont vous parlez, vous avez cité l'Espagne. Alors, excusez-moi, l'Espagne, c'est l'antithèse de ça.
Mais restons sur Macron.
On vient d'avoir là le rétablissement
oui,
du clivage droite-gauche.
Sur quoi? Sur l'acceptation par la gauche et l'extrême-gauche du budget établi par la droite. C'est quand même un peu paradoxal.
Mais restons sur le président de la République et sur Emmanuel Macron. Est-ce que vous opposez, Raphaël, à savoir que c'est un président des individus et de l'individualisme et non pas le président du collectif?
D'abord, je crois que l'individualisme a fait des progrès, mais même dès... Quand Marcel Bleustein-Blanchet va voir Monsieur Blanchet, comme Publicis. Disait De Gaulle, va voir le président de la République de l'époque, le général De Gaulle, il lui dit « Mon général, vous ne vous adressez pas à des millions de Français, vous entrez dans chaque famille, vous vous adressez à chaque famille singulièrement. » Et De Gaulle comprend ça. Il comprend donc cette révolution individualiste, elle est évidemment en marche depuis longtemps. Et mai 68 la consacre. Mais en revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est que il y a effectivement cette dimension individualiste en disant nous devons faire par exemple du social sur mesure et pas du social de guichet par exemple, mais Emmanuel Macron est très soucieux d'inscrire sa démarche dans la continuité historique. C'est l'un des seuls, depuis Malraux, à avoir fait un discours avant même d'être élu président de la République.
Ça, c'est de l'esthétique.
À Orléans sur Jeanne d'Arc.
Mais c'est de l'esthétique.
Lui-même, là,
ça,
il prend une semaine de...
C'est de l'esthétique, c'est pas une politique.
Jeanne d'Arc au Front National. Je finis juste cette phrase et je vous laisse Natacha Polony parler. On laisse Jeanne d'Arc à Le Pen, moi c'est pas mon cas, soit on accepte que c'est une figure, comme dirait Michelet, profondément républicaine,
oui,
et comme
sûr.
Disait Malraux, que c'est la seule figure de victoire qui soit aussi une figure
d'Arc. Non mais d'accord,
c'est pas le tout
de récupérer tout ce qui a été abandonné au Front National, et il y a beaucoup de choses qui ont été pendant des décennies abandonnées au Front National, que ce soit le drapeau français, que ce soit les mots même de patrie et de nation, que ce soit la laïcité qui a ensuite été abandonnée. Je pense que tout cela doit être aujourd'hui réinventé, récupéré. Simplement, vous oubliez une chose, vous citiez 2002, Jean-Louis Bourlange, mais quelle est la différence avec 2002? C'est que la colère est montée. La colère qui touche toute une partie du peuple, c'est-à-dire ceux qui se sentent les oubliés d'un système dont ils ont l'impression que tous les élus depuis 30 ou 40 ans ne l'ont pas contesté, mais qu'au contraire, ils l'ont soutenu. Un système qui a désindustrialisé la France, qui a détruit donc toute la classe ouvrière, qui est en train de détruire les classes moyennes. Or ça, Emmanuel Macron échoue totalement à répondre à cela.
Jean-Louis Bourlange.
En tout cas, si c'est la tendance que vous dites, on peut difficilement l'imputer à Emmanuel Macron qui vient d'arriver aux affaires et qui essaie
de réparer
la chose. Mais je ne suis pas du tout d'accord
avec ça. C'est pourquoi j'ai passé cet extrait tout à l'heure d'Emmanuel Macron, parce qu'il parlait justement de ce temps long de l'histoire, de ces mouvements profonds qui traversent la société française, et il décrivait le moment que nous vivons comme un moment de bascule, un point de bascule.
Moi, vous savez, je ne suis pas d'accord depuis nous polémiquons, Madame Polony et moi, depuis assez pas mal de temps, je ne suis pas d'accord avec elle sur beaucoup de choses, mais notamment sur un point. C'est sur la question de l'explication de la crise européenne. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Europe a été construite par des euro-fervents jusqu'au milieu de 95 et qu'elle s'est défaite à partir du moment où les partis européens, les démocrates chrétiens, les sociaux-démocrates ont perdu la partie. Quand on a remplacé Mitterrand, Delors, Balladur, Barre, Giscard par Jospin, qui est un homme très estimable d'ailleurs, mais qui n'était pas très européen, par Chirac qui était européen un jour sur deux, et par tout un ensemble de dirigeants, Berlusconi, Aznar, etc., qui se fichaient de l'Europe comme de leur premier. Bon, et là on a vu qu'on a refusé très systématiquement de faire une Europe cohérente. On a ouvert les frontières à la Turquie. Nous, à l'UDF, nous sommes des euro-fervents. Nous étions totalement contre. Bayrou, moi, Goulard, etc. Totalement contre. On a refusé de prolonger l'union monétaire à travers l'euro par une politique économique commune. Nous étions également favorables à ce qu'on fasse une politique commune. On voulait un système institutionnel qui soit cohérent. On a fait le traité de Nice. Et le traité constitutionnel européen ne remettait pas ça en cause. Donc on a construit, entre 1995 et 2005, on a détruit ce qui était la grande ambition européenne, qui était une ambition de faire renouer les peuples européens avec l'histoire. Parce que l'histoire, c'était quoi ? je paraphrase Sieyès sur le tiers-État, je dis l'Europe en 1914, c'était tout. L'Europe en 1945, ce n'était rien. Notre ambition, c'était qu'elle devienne quelque chose. Et là, on l'a cassée, soudée, avec d'ailleurs un jeu complexe qui était l'accord des souverainistes d'un côté et des idéalistes européens de l'autre. Mais ceux qui voulaient vraiment, comme nous, hein, au centre, à l'UDF notamment, nous voulions reconstruire une Europe politiquement forte qui assume ses obligations, on a été complètement squeezés et nous sommes hors du champ européen, nous, depuis 95 pratiquement.
J'ai longtemps pensé ça. J'ai longtemps pensé que c'était parce que nos dirigeants politiques manquaient de courage, manquaient de conviction européenne, qu'ils s'étaient arrêtés au milieu du guet et qu'en fait ils avaient laissé un ensemble totalement incohérent. C'est en partie vrai. Oui, bien sûr, c'est en partie vrai. Mais on vous a laissé parler pendant 10 minutes, donc si vous pouvez ne pas interrompre. C'est en partie vrai. Mais il y a un autre problème. Il y a quand même un problème du fait que on a focalisé l'Europe sur des mesures d'austérité budgétaire, qu'on a eu des conséquences extrêmement désastreuses sur le plan social liées à cette austérité budgétaire, et qu'on a nourri le sentiment anti-européen parmi les populations européennes, que ça manque de sens. On ne fait pas l'Europe juste pour faire l'Europe. On doit faire l'Europe pour transformer les sociétés dans un sens meilleur. Or, l'impression qui est dégagée par ce culte de la rigueur budgétaire, ce culte des normes, et non pas du sens, et non pas de la perspective, et non pas de l'horizon social, eh bien, ça génère quoi? Ça génère la désaffection de plus en plus grande. C'est pas simplement la médiocrité ou la pusillanimité du leadership qui pose problème. C'est réellement la manière dont on conçoit le sens de l'Union européenne.
Jean-Louis Bourlange.
Moi, c'est pas la pusillanimité que j'ai mise en cause, c'est le changement d'orientation politique. À partir du milieu des années 90, ce ne sont pas les mêmes forces. Vous avez l'apparition de mouvements populistes un peu partout en Europe à droite, vous avez une crise de la démocratie chrétienne un peu partout en Europe, et le remplacement par des leaders qui sont de caractère nationaliste, plutocratique, genre Berlusconi ou Aznar, c'est pas la même chose. Hein. Aznar et González, c'est pas la même chose.
Mais revenons à 2018, parce qu'Emmanuel Macron... Pour le coup, porte
un discours
européen.
Oui, mais là où je ne suis pas du tout, là je crois qu'il faut avoir une vision nuancée, c'est sur la question de l'austérité. Moi, je suis prêt à rendre les armes à Natacha Polony notamment, sur la question des années 90. C'est-à-dire que dans les années 90, le passage, l'épreuve de qualification pour la zone euro a été très coûteux. Parce que les Allemands, à cause de la réunification, on pratiquait une politique de taux d'intérêt très élevé, et pour qu'on accepte la convergence, il fallait suivre ces taux d'intérêt. Mais ça, c'est fini depuis 20 ans. Quand vous me dites que l'austérité, je ne vois pas où est cette austérité. Tout le monde est en déficit budgétaire. Et regardez, ne serait-ce que les taux d'intérêt.
Imaginez
ce que l'Europe a apporté. Puisque Monsieur Salvini conteste ce que l'Europe lui a apporté, regardez ce que l'Europe a apporté à l'Italie en matière de taux d'intérêt. Quand on a la dette italienne et qu'on a des taux d'intérêt qui ont été pratiquement alignés sur les taux allemands, c'est un avantage énorme. Sur la Grèce, on a apporté énormément à la Grèce dans les années 90. Alors là où vous avez raison, vous pointez quelque chose de dur, c'est que quand on n'accepte pas la loi qu'on s'est donnée, ce qui a été notre cas, c'est-à-dire qu'on se fiche complètement de la discipline budgétaire ex ante. Après, il faut faire rentrer le dentifrice dans le tube. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, effectivement, nous n'avons pas eu des dirigeants qui ont assumé les conséquences de leurs actes. Alors, vous savez bien depuis Bossuet que Dieu se moque des hommes qui maudissent les conséquences de ce dont ils chérissent les causes.
Natacha.
Oui, mais on pourrait débattre de plusieurs choses à partir de ce que vous venez de dire.
Et j'aimerais qu'on revienne en 2018.
Oui, c'est
et
pour
notamment,
ça. Je souligne oui, je juste que...
À la politique menée par Emmanuel Macron.
On pourrait débattre de la question de savoir si l'avantage principal, c'est d'avoir des taux d'intérêt faibles sur une dette, ou est-ce qu'il ne faut pas rentrer un peu plus dans le détail, savoir qui détient la dette, savoir quelle est la balance commerciale, etc. Là, ça vaudrait le coup pour justement vous répondre. On pourrait aussi débattre de la question de savoir à quel moment l'Europe a dérivé, c'est-à-dire est-ce que ce sont les années 90 ou est-ce que c'est avant, quand
2018.
tous ceux qui adhèrent à cette idée-là
Emmanuel
le font
Macron.
Avec en tête le même modèle économique, qui est un modèle totalement de libre-échange absolu, d'ouverture totale, qui a désindustrialisé toute l'Europe. Enfin, en tout cas, une bonne part de l'Europe. Mais simplement, revenons en 2018.
Merci.
En 2018. Oui, je vous en prie, Ali, je suis bonne élève. 2018 est la conséquence de tout cela. Et Emmanuel Macron semble aujourd'hui ne pas avoir de prise sur les événements parce que la révolution qu'il avait prétendu porter n'en était pas une, dans le sens où il s'écoulait dans toute cette logique qui est celle de tout le centre depuis des décennies en France, c'est-à-dire les libéraux de droite et les libéraux de gauche, qui acceptent ce modèle et ils n'ont pas tenu compte des difficultés. Regardez comme Emmanuel Macron se désintéresse totalement de l'enjeu de la réindustrialisation du pays. Comment voulez-vous régler le chômage de masse quand vous ne réindustrialisez pas? Ce sont les emplois industriels qui apportent la valeur ajoutée, qui créent des emplois de service. Ils sont essentiels. C'est pas son sujet.
Jean-Louis Bourlange.
Non, pas du tout. Enfin, on va pas ouvrir le débat sur la réindustrialisation parce que ça, c'est un débat assez technique. Et je crois que la création d'une croissance riche en emplois, c'est une préoccupation fondamentale du gouvernement.
Mais sur l'enjeu européen, une idéologie commune.
Sur l'enjeu européen, je crois qu'effectivement, ça va être difficile. Mais je pense que les élections européennes dont nous approchons vont être des élections extraordinaires. Extraordinairement significative. Nous allons vraiment avoir, nous avons un certain nombre de populismes un peu partout, différents, avec des menaces sur la démocratie représentative, avec tout un ensemble de choses qui vont être en cause. Je suis personnellement convaincu que ce combat n'est pas perdu et que nous allons même, les gens qui pensent, pas comme moi, mais qui sont attachés à valoriser l'héritage que nous avons construit, nos pères ont construit depuis 1950, vont gagner. C'est un combat pour la civilisation. Nous, jamais, pourquoi je pense ça? Parce que l'Europe s'est dissoute. L'Europe s'est effilochée à partir du moment où elle avait gagné la guerre froide. Elle avait gagné la guerre froide, on a eu l'illusion, pas moi, mais on a eu l'illusion de la fin de l'histoire, on a eu l'illusion que la Russie était devenue bien gentille, on a eu l'illusion que on avait gagné et que donc l'Europe était inutile. Or maintenant, nous savons. Alors, il y a une première piqûre de rappel avec le 11 septembre. Mais les Américains l'ont géré tellement maladroitement que ça n'a pas marché. Et là, nous savons, et c'est ça, c'est pas Macron. Macron, c'est la conséquence de Tsipras. Pourquoi Tsipras a-t-il à un moment... C'est Tsipras, le message.
Mais l'adhésion...
Pourquoi a-t-il changé d'attitude? Parce que nous savons maintenant que nous sommes confrontés à une menace générale et que nous ne pourrons la résoudre qu'ensemble.
Parce qu'il a subi une pression hallucinante.
Je comprends bien la technique de débat qui consiste à aborder 40 thèmes.
Je vous pose une question, je réponds.
Non, vous répondez à 40 questions et vous en posez 40 autres. Donc, mais juste sur ce que vous avez dit sur les européennes, parce que c'est ça qui me semble extrêmement problématique. Vous avez dit... C'est un combat de civilisation entre ceux qui défendent l'héritage de l'Union européenne, de ses 70 années de construction, et les autres. Or, précisément, le problème, c'est, on a compris que c'était la stratégie d'Emmanuel Macron, soit moi, soit Salvini. Mais le problème, c'est qu'on a dépolitisé l'Europe en faisant ça. C'est-à-dire que c'est consensus entre PPE, PSE, ces compromis permanents font quoi? Qu'il n'y a plus de rapport politique d'affrontement idéologique au sein de l'Union européenne et que ça se traduit par quoi? Par le déplacement du rapport politique et du rapport idéologique, du rapport de force idéologique entre ceux qui sont pour l'Union européenne et ceux qui sont contre. La politique, c'est ça aujourd'hui. Or, faire de ces élections un test entre Macron et les anti-européens, c'est précisément catastrophique pour l'Union européenne, puisque c'est ce que les élites italiennes ont fait autour de Matteo Renzi. Elles se sont toutes ralliées à Matteo Renzi. Elles ont toutes célébré comme une dernière chance pour l'Europe Matteo Renzi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Salvini, le mouvement 5 étoiles. Donc il faut justement sortir de cette idée-là et rétablir des rapports de force politique, des affrontements idéologiques, des contestations au sein même de ceux qui veulent une Europe.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, mais bien sûr, mais si vous voulez rétablir le clivage droite-gauche traditionnel, c'est tout. C'est tout à fait de la politique, ce que nous faisons. Quand nous posons la question vis-à-vis de M. Orban, je ne parle pas de sa politique migratoire, qui mérite d'être considérée en tant que telle. Hein, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais son discours en disant qu'on peut fonder une démocratie en faisant l'impasse sur les libertés, si c'est pas de la politique, qu'est-ce que c'est? Si on dit qu'une économie doit être ouverte, régulée, mais ouverte, ou repliée sur, avec le protectionnisme à la trempe, si c'est pas de la politique, qu'est-ce que c'est? Si on estime qu'on peut construire une société, une une lutte écologique. Moi, je crois que les gens sont attachés à la préservation de ce qui a été construit. On a construit la démocratie, ils veulent la maintenir. On a construit une économie prospère, ils veulent la maintenir.
Mais ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas vous.
Mais c'est de la politique, ça.
Ce n'est pas vous, la démocratie.
Ce n'est pas de la politique dans les cadres qui sont les vôtres.
Mais il faut que vous changez de cadre. Mais non, c'est pas une question de cadre, Jean-Louis Borloo. C'est pas une question de cadre. C'est tout simplement que cette stratégie, là, je rejoins totalement Raphaël Glucksmann, cette stratégie qu'on a vue déjà pendant la campagne présidentielle qui consistait à repousser dans les franges de l'extrémisme tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la vision d'Emmanuel Macron est totalement mortifère. Elle est dangereuse parce que si vous donnez le choix aux gens entre Emmanuel Macron, dont on voit aujourd'hui les limites, dont on voit que le système économique qu'il prône ne permet pas de régler les problèmes des Français et le problème en particulier des classes populaires et des classes moyennes, si vous leur donnez le choix entre ça et les extrêmes, ils finiront par aller aux extrêmes.
Il y a 18 mois, les Français ont eu le choix et ils ont choisi.
Les Français ont choisi.
Mais heureusement, oui, bien sûr qu'ils ont choisi.
Ils auront voté, ils auront quelqu'un à gauche, ils auront Mélenchon, ils auront Le Pen.
Et ils auront des problèmes.
C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Les choix des Français se font en fonction des problèmes. C'est Marx, quoi. Les hommes se posent les problèmes, ne peuvent résoudre que les problèmes qui se posent.
C'est pas l'Europe ou pas l'Europe.
C'est vous qui dites ça. Mais non, moi, je dis simplement qu'il y a des enjeux politiques qui dépassent le droit de gauche traditionnel, mais qui sont des enjeux pleinement politique.
Vous êtes en permanence dans la pensée binaire.
Moi, j'ai été 20 ans parlementaire européen. Ce que j'ai constaté, c'est que chaque fois qu'on abordait des choses sérieuses, on arrivait à, effectivement, à des convergences et des différences entre la droite et la gauche, et qu'on avait des fossés qui séparaient des solutions d'extrême droite ou des solutions d'extrême gauche avec les nôtres. Ces fossés existent. Ce n'est pas faire du populisme ou de l'antipopulisme ou du macronisme que de dire que les clivages sont ceux-là. Je ne comprends pas, d'ailleurs, Natacha, que vous le reconnaissiez pas, parce que c'est vraiment, par exemple, Madame Le Pen, je ne dis pas que vous soyez le péniste, mais Madame Le Pen, elle pose très bien le problème de ce point de vue-là, quand elle dit on a un nouvel enjeu politique.
Regardez, c'est formidable, revenez au secours de Marine Le Pen, c'est quand même extraordinaire.
Ce sont les enjeux, les clivages d'aujourd'hui, pas les clivages d'hier.
Ça vous sert et ça sert Marine Le Pen.
Mais non, mais celle qui fonde votre analyse politique, c'est donc l'analyse de Marine Le Pen. Non, il y a d'autres clivages que simplement être...
Peut-être que Marine Le Pen utilise les nôtres aussi.
Peut-être, c'est pas fait comme ça. Ça vous arrange tous les deux et vous pouvez faire un combat qui favorise l'un et l'autre.
On ne choisit pas ses adversaires.
On ne choisit pas ses adversaires, mais on choisit sa rhétorique, on choisit sa stratégie politique. Or, le surjeu sur ces Orban ou moi, ou Salvini ou moi, c'est extrêmement dangereux. Il y a différentes manières de concevoir une politique européenne. Comment on peut faire en sorte que l'Europe, par exemple, prenne en charge la transition écologique? Est-ce qu'il faut quelque chose qui donne sens à l'Union européenne? Est-ce que la stratégie économique de la Banque centrale ou financière est la bonne? Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas sortir ou pas sortir de l'Union européenne.
Et
parce que si on fait ça, eh bien, on finira par en sortir.
Mais la campagne n'a pas encore complètement commencé. Mais quand Natacha vous disait tout à l'heure, au fond, centre-gauche et centre-droit adhèrent à une idéologie commune, idéologie commune fondée sur un libéralisme,
sur l'acceptation des dérégulations et du libre-échange.
J'assume cette convergence. Dès les années 50, en Europe, on a construit quelque chose qui s'est fait à partir des démocrates chrétiens et des sociaux-démocrates. On a fait ça dans tous les pays et je pense que ce sont des clivages qui existent et qui sont pertinents. Non. Et surtout, n'allez pas, ce qui me paraît faux dans votre analyse, n'allez pas personnaliser les élections européennes. On va élire des candidats à la proportionnelle. Donc, on aura un dosage. Moi, Monsieur Jadot va construire une liste écologique. J'écoute ce que dit Monsieur Jadot avec beaucoup d'intérêt. Je vois d'ailleurs que les écologistes ont le vent en poupe dans un certain nombre de pays et je m'en réjouis pour ce qui concerne la Bavière, parce que je crois qu'on attendait l'extrême droite. On a eu une petite poussée d'extrême droite, mais ça, elle a été plutôt inférieure à ce qu'on attendait. On a eu une forte poussée écologique.
La poussée des écologistes qui donne du sens à la construction européenne, qui l'inscrivent dans une perspective de transformation du monde et de nos sociétés, la poussée des écologistes vous montre bien que le débat ne se résume pas à un choix de civilisation entre les pro-européens et les anti-européens.
C'est très facile de remonter aux années 50, mais est-ce que dans les années 50, tous les fondateurs de l'Europe adhéraient à la révolution néolibérale telle qu'elle s'est faite ensuite dans les années 70? Non. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est peut-on penser une organisation des pays européens, une organisation démocratique, politique qui ne soit pas forcément l'adhésion, par exemple, au traité de libre-échange, au TAFTA, au CETA. Or, là, ce que vous nous répondez, c'est non. Eh bien, si,
quand
justement.
Quand on a lancé l'Union européenne en 1950, il y avait un Français sur deux qui n'était pas d'accord, qui votait communiste, soit une version assez dure du gaullisme, puisque c'est après que De Gaulle s'est rallié au marché commun. Donc, l'Europe a toujours été bâtie dans une sorte de conflit politique qui est d'ailleurs tout à fait légitime. Moi, je comprends très bien que des gens soient souverainistes, soient protectionnistes. Ce ne sont pas mes choix, mais je comprends très bien. Et là, nous en sommes là. Et je pense que nous avons, sur des choix fondamentaux, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ce grand axe sur la démocratie représentative, une économie ouverte mais régulée, nous n'ayons pas et une préoccupation écologique, il n'y ait pas de forte différence entre nous. Et la politique se jouera aussi à l'intérieur de ces clivages-là.
Très rapidement, Jean-Louis Bourlange, l'impopularité du chef de l'État, est-ce que c'est, selon vous, uniquement l'impatience des Français, la traduction de l'impatience des Français qui ne voient pas les résultats des réformes comme lui semble le penser?
Je crois qu'il y a plusieurs causes. Hein. Je pense que la structuration politique du jeu n'était pas satisfaisante. Nous nous sommes opposés au MoDem à l'idée d'un parti qui serait un parti présidentiel qui détiendrait tous les pouvoirs. Nous voulons une démocratie pluraliste, nous sommes attachés à la proportionnelle. Nous estimons qu'il faut une poussée de la profondeur de la société française. Mais je donne cet exemple-là. Mais il y a certainement eu, comme souvent en France, qui a été décrit par Flaubert en 1848, il y a souvent une espèce, à un moment, une illusion, ou Malraux, une illusion lyrique qui a effectivement donner aux gens le sentiment que tout allait changer en quelques mois. Et ça, croyez-moi, moi je suis un vieil haronien et je vous dis, ça n'est pas vrai.
Quelques mois seulement pour perdre ces illusions, les illusions perdues aussi vite, c'est malgré tout assez exceptionnel, peut-être, ou pas.
Les illusions perdues, on va passer de Balzac à Dickens et on va arriver à de grandes espérances.
Merci infiniment Jean-Louis Bourlange d'avoir été notre invité, d'avoir débattu avec nous. Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, je vous dis à samedi prochain. Merci à Mathilde Klatt, à la réalisation Fred Milano, à la technique Antoine Teboul. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques. À suivre sur France Inter, les secrets d'info de Jacques Monin, thème les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, les chers services de Sophia Chikirou.